Du reste, concluait-il, il ne pouvait pas y avoir ce qui, dans sa pensée, conseillait être une véritable armée, sans une révolution dans les mœurs et l'éducation du soldat, peut-être même de l'officier, et il ne pouvait pas y œuvrer avec nos feux, nos magasins, nos administrations, nos voitures. Il n'y aurait l'armée que quand, à limiter. Des Romains, les soldats recevraient son blé, auraient des moulins à bras, cuiraient son pain sur sa petite platine. Et il n'y aurait d'armée que quand on aurait mis en fuite toute notre effroyable administration. Pas peur, assure. Je vais méditer, disait-il, tous ces changements, mais poser le mettre en pratique, il me faut une profonde paix. Une armée de guerre ne le permettait pas. Elle se fait révolter, elle me envoyait promener. Puisque je suis à ce sujet, je vais réunir ici quelques autres forces recueillies à différents instants sur les innovations projetées par l'empereur, non seulement sur l'armée, mais encore sur beaucoup d'autres objets essentiels à l'organisation sociale. L'empereur avait le projet, à la paix générale, nous a-t-il plus d'une fois. Éliminer chaque puissance à une immense réduction des armées permanentes. Il voulut que chaque souverain a sa seule garde, comme cadre du reste de l'armée à composer au besoin. Il voulut, s'il avait été contraint de conserver une forte armée, en temps de paix, l'employer aux travaux publics, lui donner une organisation ténue est une manière de seigneurie tout à fait spéciale. On trouvera sans doute une partie de ces choses dans ses mémoires. Je sais qu'il les a dictées en différents à plusieurs de ses messieurs. Il avait prouvé, disait-il, que la plus grande gêne dans ses plans des campagnes et ses grandes expéditions venait de la nourriture moderne des soldats. Vous plaît qu'il fallait trouver de la farine qu'il fallait obtenir en les faisant moudre, enfin du pain qu'il fallait parvenir à faire cuire. Ou la méthode romaine qu'il a prouvée forte et qu'il eut adoptée toute en partie, eut remédié à tous ces inconvénients avec lesquels l'empereur en est au bout du monde. Mais en que fallait-il du temps pour amener la transition d'un tel régime et ne pouvait s'opérer par un simple ordre du jeu? Je l'avais eu la pensée depuis longtemps, mais quelle était ma puissance? Je me fusse bien donné de la garde de la commander. Il n'est point de subordination ou crainte pour les estomacs vides. Ce n'était qu'en temps de paix et de loisir qu'on peut y arriver. Insensiblement, je l'aurais obtenu en criant des mœurs militaires nouvelles. L'empereur constamment tenu à faire passer toute la nation par l'épreuve de la conscription. Je suis intraitable sur les exemption, disait-il, au jeu, au conseil d'État, elle sait rien des crimes. Comment charger sa conscience d'avoir fait tuer l'un à détriment de l'autre? Je ne sais même pas si exempterait mon fils. Et dans une autre occasion, il disait encore que la conscription est la racine éternelle d'une nation. L'épuration de son moral, la véritable institution de toutes ses habitudes. Et puis, la nation, ajoutait-il, se trouvait de la sorte, de toute classée dont la véritable intérêt pour sa défense d'ailleurs et son repos au dédain organisé, maçonné. De la sorte, disait-il, le peuple français peut défier l'univers. Il peut, avec plus de justesse, renouveler ce mot de fier Gaulois. Si le ciel venait à tomber, nous soutiendrions de nos lances. Dans ce système et ses intentions, la conscription loin de nuire à l'état. Cassion, un feu devenu l'instrument. L'empereur serait arrivé, disait-il, à avoir dans chaque régiment une école pour le commencement ou la continuité des travaux dans tous les genres, soit pour l'instruction, pour les arts libéraux Oh, peu les simples mécaniques, et rien n'est plus aisé que d'obtenir tout cela, remarquez-il, le principe ou fin d'auteuil. Vous y avez chaque régiment, tirer tout ce qui était nécessaire de ces rangs même, et quel bienfait le déversement de tous ces jeunes chants avec leurs connaissances qui se nous ont-elles été qu'alimentaires, avec les mœurs qui ont dérivé nécessairement, n'aurait-il pas été produire dans la masse de la société? Jules un peu disait encore que si eux eurent du loisir, il y avait peu d'institutions sur lesquelles ils ne portaient la main et ils s'arrêtaient sur le flot des procès qui disaient être une véritable lèpre, un vrai cancer social. Déjà mon corps, disait-il, les avait singulièrement diminués en mettant au four des causes à la portée de chacun. Mais il restait encore beaucoup à faire aux législateurs, non qu'il dut se flatter d'empêcher les hommes de quereller. Ce devait être de tout temps, mais il faillait empêcher un tiers de vivre des querelles et deux autres. Empêcher qu'ils les excitent à même afin de mieux vivre encore. J'aurais donc voulu établir qui, ni eux, d'avoués, ni d'avocats, rétribués que ceux qui gagneraient leur cause par là qu'il y a des querelles arrêtées, car il est bien évident qu'ils n'en seraient pas une seule qui, du premier examen d'une cause, ne le repoussa si elle lui semblait douteuse. On ne saurait craindre qu'un homme vivant de son travail voulût s'en charger peu le seul plaisir de bavarder. Et même dans ce cas encore, les travernants seraient nuisibles qu'à lui seul, mais avec le praticien, je vais l'empereur, les choses les plus simples, c'est compliquant. Tout aussitôt, on me présenta une foule d'objections, multitude d'inconvénients, et moi qui n'avais pas de temps à perdre. J'ajournis ma pensée, mais encore aujourd'hui je reste convaincu qu'elle est lumineuse. Et qu'en la creusant, la retenant ou la modifiant, on pourrait en tirer grand parti.